faits, chroniques historiques, hétéroclites et tout azimique. Il existe dans l'histoire moderne des épisodes qui semblent glisser entre le réel et l'invraisemblable, comme si l'humanité, parfois, se plaisait à écrire des récits que même la fiction n'oserait pas imaginer. Un peu comme celui de Hirohiko Onoda, l'homme qui refusa pendant presque 30 ans de croire à la capitulation du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Voici son histoire. L'aventure commence officiellement en décembre 1944, à un moment où l'Empire du Japon, acculé par l'avancée américaine dans le Pacifique, tente désespérément de maintenir ses positions. Onoda, jeune officier né en 1922 dans la préfecture de Yakayama, est alors un militaire déjà formé aux méthodes de renseignement et de guérilla à l'école spéciale Nakana. C'est un soldat discipliné, imprégné de l'idéologie impériale qui a façonné toute une génération. Sens absolu du devoir, obéissance totale, croyance dans le sacrifice. Lorsque l'armée lui confie une mission dans l'île de Lubang, aux Philippines, rien ne laisse deviner que cet ordre le conduira à vivre dans un temps figé, décalé de près de 3 décennies par rapport au reste du monde. Le 26 décembre 1944, Onoda arrive sur Lubang. L'île d'apparence paisible est déjà stratégiquement cruciale. Les troupes américaines progressent, les Japonais sont en pleine retraite. Son ordre est clair, précis, presque solennel. Il doit mener des opérations de harcèlement, empêcher l'ennemi d'utiliser les infrastructures, notamment la piste d'atterrissage, et surtout, ne jamais se rendre. Son supérieur, le major Yoshimi Taniguchi, martèle 2 phrases qui deviendront durant près de 30 ans la boussole de toute la vie d'Onoda. « Ne vous suicidez pas, et quoi qu'il arrive, nous reviendrons vous chercher. » Quelques semaines plus tard, en février 1945, les troupes américaines et philippines prennent le contrôle de Lubang. La plupart des soldats japonais sont tués ou capturés. 4 hommes, cependant, refusent la capitulation. Hirohiko Onoda, Uichi Yakazu, Soichi Shimada et Kinshichi Kozuka. Ensemble, ils s'enfoncent dans la jungle épaisse de l'île. Leur objectif officiel se dissout peu à peu, remplacé par une mission nouvelle créée par les circonstances. Tenir, résister, survivre et croire. Les mois qui suivirent sont marqués par une confusion immense. Partout dans le Pacifique, la guerre touche à sa fin. Hiroshima, Nagasaki, la reddition officielle du Japon le 2 septembre 1945, tout cela échappe totalement aux 4 hommes. Les Américains larguent des tracts annonçant la fin des hostilités, accompagnés de lettres manuscrites, parfois rédigées par leur famille. Mais l'instruction initiale, ne jamais se rendre, agit comme un filtre mental. Ils sont convaincus que l'ennemi utilise la psychologie pour les attirer hors de la jungle. À leurs yeux, tout cela n'est que stratégie, manipulation et désinformation. Les années s'écoulent, la jungle se fait à la fois refuge et prison. Les 4 hommes survivent grâce aux fruits, au riz qu'ils parviennent à dérober dans les champs, aux animaux qu'ils chassent. Ils renforcent leurs abris, organisent des rondes, établissent des caches. Leur discipline militaire les maintient dans un état de vigilance permanent. Ils possèdent encore des armes, des munitions, des grenades. Leur vision du monde se rétrécit à cet environnement clos, où chaque bruit est suspect, où chaque silhouette pourrait être une embuscade. La population locale, elle, vit dans la peur. Onoda et ses compagnons, persuadé d'être en territoire hostile et en guerre active, ouvre parfois le feu sur des villageois, attaque des patrouilles philippines, dérobe des vivres de manière parfois agressive. Plusieurs civils sont tués au fil des affrontements. Pendant longtemps, dans les séries populaires circulant au Japon, cette partie de l'histoire a été minimisée. Mais les archives locales ainsi que les enquêtes menées après 1974 établissent clairement que la guérilla d'Onoda a fait de nombreuses victimes. Sur Lubang, le souvenir de ces violences demeurera une cicatrice durable. L'un des premiers signes de désagrégation du groupe apparaît en 1950. Yuichi Akazu, affaibli par la faim et épuisé psychologiquement, décide de quitter ses compagnons. Après plusieurs mois d'errance solitaire, il finit par se rendre aux autorités philippines. Pour Onoda, Shimada et Kozuka, cette reddition n'est pas un signe de fin, mais la preuve que les Américains ont retourné leurs camarades. L'idée que l'ennemi puisse manipuler ceux qui le considèrent comme des frères d'armes renforce leur sentiment de méfiance vis-à-vis du monde extérieur. En mai 1954, un événement brutal rompt davantage l'équilibre. Soichi Shimada est tué lors d'un échange de tirs avec des habitants de l'île. La mort de ce camarade, que les deux survivants considèrent comme un soldat exemplaire, accroît leur détermination et leur isolement. Ils s'enfoncent encore plus profondément dans la forêt, convaincus que la guerre continue et que leurs actions ont encore un sens stratégique. Dans leur esprit, les combats sporadiques sont la preuve qu'ils ne se trompent pas. Durant les années 1960, plusieurs opérations sont montées pour tenter de retrouver les derniers soldats japonais encore cachés dans les Philippines. Certains sont découverts, persuadés eux aussi que la guerre n'a jamais pris fin. Mais Onoda, qui maîtrise toutes les techniques de camouflage apprises à l'école Nakano, parvient systématiquement à échapper aux recherches. À chaque opération de police, à chaque appel au haut-parleur, il voit une confirmation de ce qu'il croit être un piège. La situation dure encore longtemps. Lubang vit avec un soldat fantôme dont on ne connaît pas l'emplacement, dont on craint l'apparition et qui frappe apparemment au hasard. L'armée japonaise, qui tente parfois de persuader Onoda de sortir, publie des messages, diffuse de nouvelles lettres, mais rien n'y fait, la méfiance est totale. Puis survient l'année 1972, qui marque un tournant tragique. En octobre, Kintsushi Kozuka, le dernier compagnon d'Onoda, est tué lors d'un affrontement avec la police philippine alors qu'il brûlait des réserves de riz, convaincu d'effectuer une mission de sabotage. À partir de cet instant, Onoda reste seul. Seul dans la forêt, seul face à ses souvenirs, seul avec sa mission donnée près de 30 ans auparavant. Il n'y a plus personne pour valider ses perceptions, plus de camarades pour confirmer ses intuitions. Il devient un soldat unique, une armée d'un homme, un vestige du monde d'avant 1945. Et c'est alors qu'intervient l'un des épisodes les plus étonnants de l'histoire. La rencontre avec un jeune japonais, Noriyo Suzuki. Ce dernier, aventurier autodidacte, parcourt l'Asie dans une quête qu'il décrit lui-même avec humour. « Je veux trouver Onoda, un panda et l'abominable homme des neiges dans cet ordre. » En février 1974, après seulement quelques jours de recherche sur l'île, Suzuki tombe sur Onoda. L'homme qu'il rencontre n'est pas un sauvage halluciné, mais un officier calme, discipliné, toujours parfaitement convaincu que la guerre continue. Suzuki l'écoute, lui parle du Japon moderne, de la paix retrouvée, de l'économie qui a changé de visage. Mais Onoda refuse l'idée d'une capitulation. Il répète qu'il ne cessera le combat que lorsqu'un officier supérieur lui donnera un ordre direct, conforme aux règles de l'armée impériale. Suzuki rentre alors au Japon avec des photographies et un témoignage. C'est une révélation pour tout le pays, partagée entre stupéfaction, fascination et incompréhension. Le gouvernement japonais retrouve l'ancien major Taniguchi, devenu libraire et retraité discret. Celui-ci accepte de repartir pour Lubang afin de donner à Onoda l'ordre qu'il attend depuis 30 ans. En mars 1974, l'ancien officier se rend dans la jungle. Lorsque Taniguchi se tient devant lui, Onoda, qui garde encore son uniforme défraîchi et son fusil Arisaka encore parfaitement entretenu, est face à celui qui peut mettre fin à 3 décennies d'attente. Taniguchi lit alors les nouveaux ordres. La guerre est terminée, l'armée impériale n'existe plus, la mission est achevée. Onoda écoute, immobile, puis reconnaît l'ordre. Ce moment marque la fin d'une vie parallèle, construite dans la fidélité à une instruction devenue, au fil du temps, presque mythique. Le 10 mars 1974, il se rend officiellement aux autorités philippines. Il porte encore son uniforme, soigneusement réparé, et remet ses armes, un fusil en état de fonctionnement, ses munitions, et le poignard que sa mère lui avait donné en 1944 pour qu'il se suicide s'il devait être capturé. Un objet qu'il n'a jamais utilisé, fidèle à son ordre initial de ne pas mettre fin à ses jours. La reddition fait le tour du monde. Les médias internationaux relatent l'histoire de cet homme qui, pendant 29 ans, a ignoré la fin de la guerre. Pour certains, c'est l'incarnation d'une loyauté extraordinaire, pour d'autres un exemple tragique de l'endoctrinement militaire et des ravages de l'obéissance aveugle. Aux Philippines, le sujet est plus sensible. Onoda, au fil des années, a été impliqué dans des affrontements meurtriers. Mais le président Ferdinand Marcos décide d'accorder son pardon dans un geste conciliateur qui vise aussi à apaiser les relations entre les deux pays. De retour au Japon, Onoda devient une figure publique, parfois célébrée, parfois controversée. Son autobiographie rencontre un grand succès, mais l'homme, profondément marqué par son expérience, cherche ailleurs une nouvelle existence. Il part pour le Brésil, où il devient éleveur dans une communauté de colons japonais. Ce n'est qu'en 1984 qu'il revient au Japon pour fonder une école de vie dans la nature, destinée aux jeunes. Convaincu que la discipline, la connaissance de l'environnement et la force mentale sont des vertus nécessaires. Il retournera également à Lubang en 1996 pour rencontrer les habitants et faire un don à l'école locale, un geste interprété comme une tentative de réconciliation symbolique. Hirohō Onoda meurt le 16 janvier 2014 à l'âge de 91 ans. Son histoire reste unique, non pas en tant que héros et pas seulement en tant que survivant, mais comme symbole des contradictions du XXe siècle. Une époque où l'obéissance absolue pouvait mener un homme à vivre dans une autre temporalité, déconnecté du monde pendant presque trois décennies. Son aventure invite à réfléchir à la puissance des ordres, à la façon dont une conviction, même erronée, peut devenir une réalité entière lorsqu'elle n'est jamais contredite. Elle révèle aussi la complexité de la mémoire. Au Japon, Onoda sera parfois perçu comme un exemple de détermination. Aux Philippines, il restera associé à des années de peur et de deuil. Au-delà du personnage, il incarne l'ombre portée de la guerre qui ne s'arrête pas toujours au jour de la signature d'un traité. Pour certains, elle continue dans les corps, dans les mémoires, dans les jungles, bien longtemps après que les nations aient proclamé la paix. Ainsi s'achève l'histoire de celui que l'on a parfois appelé le dernier soldat. Non parce qu'il fut le dernier à se battre, d'autres soldats japonais cachés furent retrouvés après lui, mais parce qu'il est devenu, dans l'imaginaire collectif, le symbole d'un siècle qui a façonné des hommes prêts à plier leur vie entière à un ordre reçu dans un autre temps. Une histoire presque impossible, mais pourtant rigoureusement vraie, qui témoigne de ce que l'être humain peut accomplir, en bien comme en tragique, lorsqu'une idée devient sa seule boussole.
Oh, qu'est-ce que t'as à me regarder ?
Toujours vif, comme au premier jour de cours. Où tour à tour les mecs te matent, claquent pas des genoux, t'es viré de la cour. Tenir le coup, regard froid, fais pas le tocard. L'œil au beurre noir, vaut mieux le faire que l'avoir. Dès le plus jeune âge entraîné à évoluer dans une meute où l'ego se fait les dents sur les colliers d'à côté. Où les réputations se font et se défont. Où les moins costauds enjambent les ponts, se défendent sans modération. En guerre permanente avec les autres, les bandes se forment. On comprend vite qu'on est plus fort avec ses potes. En somme, voici venir l'âge béni. Où tu te crois mais t'es qu'un con. Et y'a qu'à toi qu'on l'a pas dit. Les autres jouent les kites pour une bille. Puis une fille, le poil s'érisse, les dents graissent. On tape pour des pécadilles. Évite les yeux, on doit pas voir quand ça va mal. La moindre faille physique ou mentale, l'issue peut être fatale. On grandit au milieu des ronins. Chacun sa barque pourrie sur sa merde, merde. Chacun sa voix, sa vie devant l'adversité. Les coudes se soudent, on pousse un kiaï. Le doute se taille, prêt à mourir comme un samouraï. Un chambara, la fierté, la loi. Tu, comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un chambara, la fierté, la loi. Tu, comme un bon vieux Kurosawa, la main sur le katana. Même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. Le temps passe, baby, carte grandit entre le fer et la soie. La foie, c'est avec le fer qu'il l'a acquise, aux prises avec la pression. La presse relate ses actions, la prison souvent remplace le paxon. Le pompon s'agite au-dessus de nos têtes, chacun le veut pour lui. Un billet pour le manège, gratuit, verrouillé. La nuit, les lampadaires se morfent en mec. Une seule quête, les pépettes. Quand t'as les sous, tu drives une 720 et tu touches des seins en lutte, souvent au but. chute sur le pied du voisin. Espace restreint, on gueule souvent, on en vient aux mains. Pour tout et rien, ça finit devant témoin. Et va savoir combien de temps on peut rester sans voir les siens. Comprends bien, c'est une réalité, pas une BD. Les sens toujours éveillés, éviter les embûches, les femmes risquées, les boîtes piégées, les gens ont changé. La rue est mal fréquentée, surtout sors pas sans tes papiers, ça peut gâcher la soirée. J'ai combattu, j'ai eu mon heure, mon jour, je verse un verre, c'est pour ceux qui attendent leur tour. Et ceux qui ne rigoleront plus, on baissera pas les bras. On n'est pas né pour ça, même vaincu, on se jettera dans la bataille pour l'honneur comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté, la loi tue comme un bon vieux Kurosawa. La main sur le katana, même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï. On joue dans un champ barrage, la fierté, la loi tue comme un bon vieux Kurosawa. La main sur le katana, même si la peur m'assaille, je partirai comme un samouraï.
Restons au Japon, mais au XVIe siècle. À cette époque, ce n'est pas un pays en paix. C'est un archipel morcelé, fragmenté, traversé par des décennies de guerres civiles. Cette période porte un nom, l'époque Sengoku, littéralement l'ère des provinces en guerre. Les clans s'affrontent, les alliances se font et se défont, les châteaux brûlent, et l'honneur se mesure à la lame du sabre. C'est un monde où la mort est quotidienne, ritualisée, presque attendue. C'est dans ce Japon-là, fermé, hiérarchisé, profondément codifié, qu'apparaît un homme. Son nom sera Yasuke. Voici son histoire. L'histoire de Yasuke commence bien avant que ses pieds ne foulent la terre japonaise. Elle commence en Afrique, sur les routes commerciales de l'océan Indien, à une époque où les Européens sillonnent les mers, reliant des continents qui, jusqu'alors, ne se connaissaient que par rumeur. Les sources ne sont pas unanimes, mais la plupart des historiens s'accordent à situer l'origine de Yasuke quelque part entre Afrique de l'Est, peut-être dans l'actuel Mozambique, peut-être en Éthiopie, peut-être dans une région aujourd'hui disparue sous les changements de frontières et de noms. Nous ignorons son nom de naissance, nous ignorons sa famille, sa langue maternelle, sa religion d'origine. Ce que nous savons en revanche, c'est qu'il est arraché à son monde natal par les grands réseaux de circulation de l'époque. Missions religieuses, commerce, diplomatie, parfois esclavage. Il entre dans l'histoire écrite non pas comme un Africain libre nommé, mais comme un homme décrit par son apparence, par son corps, par sa différence. Le nom Yasuke lui a été donné après son arrivée au Japon. Comme son vrai nom africain était inconnu des Japonais, ils l'ont adapté à leur prononciation. Ce pourrait provenir d'une simplification de son prénom africain ou de la manière dont les Portugais l'avaient appelé. Et il a été transmis soit par les jésuites, qui l'accompagnaient, soit directement par la cour japonaise pour l'identifier et l'intégrer socialement. Certains kanji, les caractères d'origine chinoise utilisés pour écrire les mots et les noms en japonais, pourraient être choisis pour représenter ce nom. Par exemple, un kanji peut exprimer la paix ou la protection, donnant un sens comme « homme pacifique » ou « homme calme ». Mais aucun kanji original n'est conservé dans les chroniques. Le nom reste avant tout phonétique. Recevoir un nom japonais était déjà un signe d'acceptation sociale et culturelle. Yasuke arrive au Japon vers 1579, au service du missionnaire jésuite Alessandro Valignano, un Italien originaire du Chieti, dans la région des Abruzzes, issu de la noblesse et haut représentant de l'Église catholique en Asie. Valignano est un homme clé de l'expansion chrétienne dans la région, convaincu que l'Église doit comprendre les cultures locales pour s'y implanter durablement. Yasuke n'était pas un esclave ordinaire, il voyageait en tant qu'assistant et serviteur de confiance de Valignano, ce qui lui a permis d'avoir un accès direct à l'éducation et aux échanges culturels que le missionnaire valorisait. Dans ce rôle, il a pu acquérir certaines compétences intellectuelles et sociales, comme la discipline, la compréhension de plusieurs langues et la capacité à s'adapter à différentes cultures. Les récits européens le décrivent ainsi comme cultivé, discipliné et probablement multilingue. Il est grand, plus d'1m80 et d'une force impressionnante. Mais au Japon, ce qui frappe avant tout, c'est sa peau. Jamais ou presque les Japonais n'ont vu d'homme noir. Dans les villes qu'ils traversent, la foule se presse, des enfants crient, des adultes doutent de ce qu'ils voient. Certains tentent littéralement de frotter sa peau, persuadés qu'elle est recouverte d'encre. Des chroniqueurs rapportent des scènes de panique, de curiosité extrême, parfois de violence. Yasuke devient un phénomène. Cette agitation finit par parvenir aux oreilles de Oda Nobunaga, l'un des seigneurs de guerre les plus puissants et les plus redoutés du Japon de l'époque. Nobunaga n'est pas un homme ordinaire. Il est brutal, visionnaire, impitoyable pour ses ennemis et obsédé par le pouvoir et l'innovation. C'est un stratège hors pair, capable de conquérir des territoires entiers grâce à son génie militaire et à l'utilisation des armes à feu portugaises, alors très nouvelles sur les champs de bataille japonais. Mais Nobunaga n'est pas seulement un guerrier. Il est un homme curieux, avide de nouveautés, parfois même audacieux au point de choquer ses contemporains. Il adopte certains vêtements et coutumes européennes, il encourage l'installation de missionnaires chrétiens sur son territoire, et il s'intéresse aux techniques étrangères, aux arts, à la science et à la culture venue d'Occident. Pour lui, un homme comme Yasuke n'est pas seulement une curiosité. Il représente une ouverture sur un monde plus vaste, une puissance physique et une étrangeté qu'il peut comprendre et exploiter à sa manière. Nobunaga est connu pour son tempérament imprévisible. Il peut être charmant et généreux envers ses alliés, mais d'une cruauté fulgurante envers ses ennemis. Il impose son autorité avec une détermination sans faille et attend de ceux qui le servent une loyauté absolue. Dans ce contexte, la rencontre avec Yasuke est un moment déterminant. Il observe, interroge, teste et juge l'homme noir, non comme un simple étranger, mais comme un potentiel allié ou guerrier capable de se fondre dans la rigueur de son monde militaire et aristocratique. Lorsqu'il rencontre Yasuke, la scène est rapportée dans les chroniques japonaises, Nobunaga fait venir l'homme noir devant lui, l'observe longuement, lui ordonne de se laver, convaincu que sa couleur est artificielle. Puis, il comprend. Et au lieu de rejeter Yasuke comme une aberration, il s'y intéresse. Nobunaga l'interroge, il écoute son histoire, il lui parle directement, avec l'aide d'un interprète jésuite qui traduit du portugais au japonais, car Yasuke parle portugais et Nobunaga japonais. Pourtant, malgré la barrière de la langue, Nobunaga est fasciné par sa stature, par sa force, mais aussi par son intelligence, perceptible à travers son comportement et ses réactions. Très vite, il décide de le garder à son service. Ce choix est capital. Car Nobunaga ne fait pas de Yasuke une simple curiosité exotique. Il l'intègre à sa cour. Il lui accorde une résidence, il lui verse un salaire, et surtout, fait sans précédent dans l'histoire japonaise, il lui permet de porter des sabres, le katana et le wakizashi, les symboles absolus du samouraï. À partir de cet instant, Yasuke change de statut. Il n'est plus un étranger de passage, il devient un guerrier au service d'un daimyo, c'est-à-dire un seigneur féodal, puissant, possédant des terres et des troupes, autorité suprême sur ses domaines et ses habitants. Les daimyo étaient les piliers du système militaire et politique japonais. Ils contrôlaient les châteaux, levaient des armées, collectaient les impôts et négociaient alliances et mariages pour renforcer leur pouvoir. Servir un daimyo, comme Nobunaga, signifiait être intégré à un monde de discipline, de stratégie, de loyauté et de prestige, mais aussi d'extrême danger, car la guerre et la trahison étaient omniprésentes. Yasuke apprend les règles du Bushido, la loyauté, le courage, le mépris de la mort, l'obéissance au maître. Il apprend les usages japonais, la langue, les gestes, les silences. Il vit dans un monde où chaque regard compte et où l'honneur est plus précieux que la vie. Yasuke accompagne Nobunaga dans ses campagnes. Les sources ne détaillent pas chaque bataille, mais elles confirment sa présence à ses côtés, notamment lors des derniers mois de la vie du seigneur de guerre. Il est probablement garde du corps, peut-être officier subalterne. Sa simple présence sur le champ de bataille est un choc visuel et psychologique. vient 1582. Le 21 juin, au temple Onigi, Oda Nobunaga est trahi par l'un de ses plus proches généraux, Akechi Mitsuhide. Pris par surprise, encerclé, Nobunaga comprend qu'il n'a aucune issue. Selon la tradition samouraï, il choisit la mort qu'il se donne par seppuku dans un acte ultime de contrôle et d'honneur. Yasuke est là, il combat, il tente de résister, il survit. Et cette survie est, paradoxalement, une faute dans la logique du monde samouraï. Capturé par les forces d'Akechi, Yasuke est amené devant le nouveau maître, mais il n'est pas exécuté. Akechi refuse de le considérer comme un véritable samouraï. Il le décrit comme une créature étrangère, une curiosité, et le renvoie aux jésuites. À cet instant, Yasuke sort de l'histoire. Les archives se taisent. Aucun texte ne raconte ce qu'il devient. Est-il reparti avec les missionnaires? A-t-il quitté le Japon? A-t-il survécu dans l'ombre, survivant à un monde qui ne voulait plus de lui? Nous n'en savons rien. Ce silence est peut-être la partie la plus éloquente de son histoire. Car Yasuke a existé. Il est attesté par des sources japonaises et européennes. Il n'est pas un mythe. Et pourtant, il a été longtemps effacé, réduit à une anecdote, à une curiosité. Aujourd'hui, il revient comme une figure puissante, celle de la rencontre brutale entre les mondes, de la possibilité de l'intégration, mais aussi de ses limites. Yasuke est le rappel que l'histoire n'est pas homogène, qu'elle est faite de fractures, d'exceptions, d'existences qui ne rentrent pas dans les récits dominants. Un homme noir a porté le sabre au Japon féodal. Il a servi l'un des plus grands seigneurs de guerre de son temps. Il a traversé les continents, les cultures, les préjugés. Il n'a pas laissé de tombe connue, il n'a pas laissé de descendance identifiée, mais il a laissé une trace. Et parfois une trace suffit à bouleverser la mémoire du monde.
Stained katanas, black man from Ghana. I battle over my honor and guided by Nobunaga. The power in every kata has channeled most of my oni. Years later, ended up scarred, broken, and lonely. The sword I touched been cursed by memories of war. Every stroke from the blade left the enemy's floor. Challenged the Lord who could afford to buy your life clearly. Let you commit seppuku, not worthy your harakiri. 45 battle side, get ready to die over pride. Commit suicide, standing right behind with a steel noble samurai to the naked eye. I'll decide if you stay alive. Live, hear my battle cry, motherfucker.
Historique, hétéroclite et tout azimique.